Le Congrès des entreprises publiques locales 2021. Innover, investir, réinventer avec les EPL. Les 13 et 14 octobre 2021 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à vous, chers auditeurs. Jour 2 du Congrès EPL. Merci de nous avoir été fidèles pendant 2 jours. Comme récompense, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Maurice Issoko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Citalios, un des principaux acteurs de l'aménagement urbain. Vous avez une expertise sur l'habitat ancien et dégradé, entre autres. J'ai envie de commencer par ça, finalement, parce que peu d'acteurs s'attaquent à l'habitat ancien et dégradé. Pourquoi, selon vous ?
Alors, pour plusieurs raisons. Traditionnellement, les aménageurs qui sont censés produire du foncier pour réaliser du logement ont pris l'habitude de traiter sur de grandes emprises foncières, sur les extensions de villes, et moins sur la recomposition de la ville sur la ville. Alors ça se développe, bien évidemment. Toutefois, l'habitat privé dégradé est une spécificité, nécessite une spécificité de traitement, un travail de dentelle qui est à la fois coûteuse en temps et en argent. Et donc, il est souvent plus facile de raser une partie d'un quartier pour le reconstruire. Par ailleurs, la pratique de la rénovation urbaine a également poussé par le nombre de logements produits à être plus dans les logiques de démolition-reconstruction que dans des logiques de réhabilitation. Et par ailleurs, on est confronté à une multiplicité de copropriétaires, contrairement aux grandes stratégies de rénovation urbaine où on a des monobailleurs, et donc du coup, des monopropriétaires, et donc du coup, on se retrouve avec une complexité et tout ce travail de dentelle dont je vous parlais qui fait que, hélas, aujourd'hui, il y a quelques acteurs spécialisés et en gros 2 aménageurs spécialisés en la matière, dont Citalios.
Bon, justement, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur vos missions ?
Alors, Citalios est un aménageur francilien. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, que c'est qu'on se limite au 92 et au département 78, mais c'est un aménageur francilien qui intervient donc sur l'aménagement en général, la rénovation urbaine plus particulièrement, donc cette logique de reconstitution de ville sur la ville, sur l'habitat privé insalubre et dans l'accompagnement des copropriétés dans la réhabilitation de leur patrimoine. En accompagnement des bailleurs sociaux également, à la fois dans la rénovation urbaine et dans la valorisation de leur patrimoine. Donc ça, c'est notre cœur de métier qui est l'aménagement. À côté de ce métier, nous avons une grosse activité de mandat. On réalise des lycées, des collèges, des équipements publics, des halles de marché, notamment quand on recompose des quartiers. Et puis, en continuité de cette activité d'aménagement, nous avons créé une filiale de copromotion immobilière pour accompagner, en fait, la reconstitution de quartiers. Et au lieu de vendre des charges foncières à des promoteurs et puis de ne plus se préoccuper de ce qui sort derrière, nous allons un peu plus loin. Et dans le cadre de cette activité de copromotion, nous contrôlons la qualité des logements qui sortent. Nous contrôlons la commercialisation également de ces logements. Donc nous faisons également une activité de copromotion. Et puis, notre vocation, c'est bien d'être un aménageur global. C'est-à-dire, en fait, la complexité des procédures administratives, la durée des projets, le fait qu'on reconstitue une ville sur la ville, ça veut dire que c'est beaucoup plus complexe. Et donc, il nous a semblé qu'un aménageur aujourd'hui ne pouvait plus se contenter de ses strictes compétences d'aménagement, mais devait s'ouvrir et aller chercher les compétences là où elles sont. Et donc, on joue ce rôle d'ensemblier. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs choses depuis quelques années. On a, par exemple, accompagné la création par le département des Yvelines d'un office foncier solidaire pour diversifier l'offre de logement. On a par ailleurs accompagné le développement de Seine-Yvelines Emménagement, qui est un outil de compensation carbone. À l'heure où on parle d'USAN, on avait un petit sujet d'avance.
Bah alors justement, les attentes en termes d'aménagement urbain aujourd'hui, quelles sont-elles ?
En fait, aujourd'hui, on a plusieurs besoins en termes d'aménagement. Le premier, c'est qu'on a besoin de loger les Français. On a une crise du logement, enfin une crise des crises du logement.
Un manque de logement évident.
Un manque de logement et un paquet de logements inadaptés à la demande. Vous avez des logements dégradés dans plein de zones périurbaines, dans des centres-bourgs, des logements que les gens ne veulent plus habiter, voulant habiter plutôt des maisons individuelles, neuves, bien entretenues. Donc il y a à la fois une double crise, en quelque sorte, si on peut dire. Il manque des logements. Et en plus, là où il y en a, c'est pas les logements que les gens veulent.
Oui, en plus, le sujet des logements vacants. 420 000 logements vacants, hein, c'est le chiffre, en tous les cas, même si tout le monde ne s'accorde pas sur le même chiffre, en tous les cas, c'est celui qui ressort le plus en ce moment. Le logement pour tous, pour vous, c'est possible aujourd'hui ?
Le logement pour tous, c'est possible, hein, bien sûr. Si je vous dis l'inverse, j'arrête ce métier.
Ah, c'est juste.
C'est clair. Alors, oui, c'est possible. C'est possible, mais le logement pour tous, ça veut dire des logements différents, adaptés dans leur prix et dans leur coût. Ça veut dire un panel de variétés de logements, ça veut dire des logements intermédiaires, ça veut dire des logements sociaux, ça veut dire, avec les différentes gammes de logements sociaux, parce qu'on oublie que dans le logement social, vous avez un grand écart entre le PLAI et le PLS, c'est pas du tout la même chose, hein, d'une part. Vous avez du logement étudiant, vous avez besoin des logements pour les personnes âgées, donc qui rentrent dans des catégories qu'on classe comme logement social ou pas, vous avez besoin d'accession. Et donc, vous avez de grands logements, vous avez besoin d'une adaptabilité des logements. Alors, il y a beaucoup de logements vacants parce que c'est des logements qui ne répondent pas forcément à la demande, premièrement, ou qui ne trouvent pas preneur pour des raisons de coût. Dans les zones tendues, vous trouvez, mais à des prix qui sont totalement scandaleux.
Mais alors, les urgences à court, moyen terme pour les collectivités.
Les urgences pour les collectivités, c'est de trouver les moyens de financer les équipements publics qui sont liés à ces logements. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Parce que c'est pas tout de dire à un élu, moi, je suis très... très méfiant, en tout cas je ne m'associe pas à la vindicte sur les élus en leur disant ils ne veulent pas faire de logement, c'est scandaleux. Ces élus, c'est pas qu'ils ne veulent pas faire de logement. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est se retrouver, à un moment on a supprimé la taxe d'habitation, se retrouver avec des impôts supplémentaires à lever sur leurs administrés pour financer des équipements publics qui n'existent pas, qui sont d'ailleurs nécessités par le besoin en logement, par rapport à une population qui n'a pas forcément envie de la densité. Et c'est là que ces élus sont confrontés à la réalité de terrain. Parce qu'on peut bien dire, attention, il faut densifier, il faut faire plus de logements. Mais quand vous êtes sur le terrain, quand l'élu il défend la densification, il faut voir ce qu'on lui répond. Mais nous, on ne veut pas plus des logements plus hauts. On ne veut pas des rues plus étroites. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à repenser la ville. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à développer la concertation, l'explication, pour permettre aux gens à la fois de comprendre que la densité, c'est pas uniquement de la hauteur, premièrement, et que face à une crise du logement, faut quand même qu'on arrive à construire des logements, vous le disiez, pour tous. C'est pour ça qu'on a une raison d'être, d'ailleurs, mais on y reviendra, si vous voulez. Le sujet du pour tous, il est clé. Parce que tout le monde dit qu'en effet, il faut du logement abordable, mais personne veut des logements sociaux à côté de chez lui.
Et les problématiques pour Citalios sont-elles les mêmes que pour les élus aujourd'hui ?
Nous, on est au service des élus, on est au service des projets des élus. Donc, par définition, la problématique des élus est la nôtre. Et notre job principal, c'est d'essayer d'apporter des solutions à ces élus. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, on joue un rôle d'ensemblier, parce qu'on va aller chercher les meilleurs partenaires adaptés à la situation de l'élu, de la ville, du quartier.
Alors justement, en parlant de partenariat, vous avez noué un partenariat, pas des moindres, avec Action Logement. Premier partenariat avec un ménageur. Est-ce qu'on peut en avoir deux mots ?
Ce partenariat avec l'association Foncière Logement, la Foncière Logement plus particulièrement avec le fonds d'Ineo, c'est un partenariat qui rentre totalement dans notre logique de réhabilitation. Aujourd'hui, on a l'habitude de raser, reconstruire. Or, comme je vous le disais en introduction sur les métiers de Citalios, nous avons une spécificité, c'est de réhabiliter des logements, qu'ils soient collectifs ou des logements appartenant à des copropriétaires. Il s'agit donc concrètement pour nous d'aller identifier des immeubles dégradés, d'examiner avec l'association Foncière Logement la faisabilité juridique et technique d'une réhabilitation. Et donc ça sécurise une opération de réhabilitation. Alors pourquoi ça a du sens ? Parce que nous, on cherche à faire du logement pour tous. Vous avez toute une série de... Vous parlez de logements vacants, mais il y a plus de 400 000 logements en France qui sont dégradés, qui sont indignes à l'habitat. Et donc, face à la complexité, c'est comment nous, Citalios, nous avons déjà une méthode pour accompagner les propriétaires qui ont des difficultés à rénover leur logement. Mais au-delà de ces propriétaires-là, il faut déjà trouver un parcours de... Vous avez des vendeurs de sommeil, vous avez toute une série de gens qui exploitent, au-delà des vacants, qui exploitent les populations les plus défavorisées. Et nous, comme on dit qu'on veut du logement pour tous, vous en faisiez référence tout à l'heure, il faut qu'on puisse trouver des solutions également pour des propriétaires, on va dire des propriétaires pauvres quasiment, qui ont acquis leur habitation et qui n'ont pas les moyens de réhabiliter.
Avec
donc
derrière,
ceux-là, on les accompagne. Et à côté, on leur permet, on permet via la sécurisation que nous apporte le Fonds Action Logement, d'acheter des immeubles entiers, de reloger les gens le temps de la réhabilitation et de reconstruire des logements qui permettent, sur ces lieux-là, de faire du logement intermédiaire et du logement abordable.
Avec derrière aussi des réglementations qui se durcissent. Et c'est intéressant de savoir comment finalement vous, vous manœuvrez dans ce contexte réglementaire mouvant. Est-ce que c'est aisé pour vous finalement aussi d'évoluer dans cet écosystème
Non, c'est très complexe. C'est très complexe, mais c'est aussi notre savoir-faire. Et comme on est dans un champ concurrentiel, je ne vais pas expliquer comment on fait dans le détail.
On ne vous en veut pas.
Bon, mais à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à aider tous les élus. On n'est pas territorialement arrêté à accompagner là où il y en a besoin, que ce soit dans le 93, que ce soit dans l'Essonne, un peu partout il y a ces problématiques-là. Dans des endroits où on est déjà implanté via la rénovation urbaine. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est souvent au bord des quartiers de l'ANRU, qui a défini un périmètre de rénovation, qu'on a ces problématiques-là. Parce que le problème des zones ANRU, c'est traité. Qu'est-ce qui se passe aux alentours? Et c'est là qu'on voit qu'on a un trou dans le dispositif et que Action Logement va venir combler aux côtés de l'ANA, aux côtés d'autres opérateurs. Et donc, nous, on accompagne ce dispositif-là.
Et c'est toujours facile de répondre aux injonctions de l'État?
L'État, il est très pragmatique. Les préfets sont très pragmatiques. Quand il y a les arrêtés, les maires aussi, ils savent très bien que lorsque vous avez un logement qui est insalubre, mais qui n'est pas... avant de prendre un arrêté qui vous impose de murer un immeuble, qu'est-ce que vous faites des gens qui sont dedans? Voilà. Peu importe, on poursuit, l'État est assez dynamique sur la poursuite des vendeurs de sommeil. Dire qu'il laisse faire, mais faut-il encore qu'il ait une offre dans un contexte de pénurie de logements pour les populations les plus défavorisées? Quand vous fermez un immeuble qui est insalubre, il faut pouvoir loger les gens. Vous avez vu ce qui se passait à Marseille. Il y a plein d'immeubles insalubres et pourtant on les laisse. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre les gens à la rue.
Évidemment.
Sauf quand ils risquent leur vie. Et donc entre le moment où on risque sa vie et le moment où on est dans des contextes d'humidité, d'absence de salle d'eau, etc., entre les deux, les préfets ne portent pas d'injonctions contradictoires, ils sont très clairs dessus. Là où on peut éventuellement se poser la question d'injonctions contradictoires, c'est quand on vous dit à la fois c'est très compliqué de densifier, arrêtez d'artificialiser, mais faites plus de logements. À bout d'un moment, pour un élu, c'est la quadrature du siècle. On prend cette ville où on est aujourd'hui à Toulouse, c'est une ville qui a plus de 6000 habitants par an en plus, vous les mettez où? Vous avez densifié la ville romaine, donc c'est pas possible. Vous pouvez pas densifier le centre-ville. Alors, on peut décider de faire des tours, mais
c'est pas
notre
forcément
ami Jean-Luc Boudin qui a été confronté à la réalité de ce que c'est de l'opposition face à une tour.
Opposition citoyenne, bien sûr, qui est très vive.
Et très vive. Et donc, les gens sont dans leur contradiction. Vous avez des classes moyennes qui n'arrivent pas à loger leurs enfants à côté d'elles, alors que ces enfants seraient éligibles au logement social. Mais ils veulent pas de logement social non plus. Et le maire, il est confronté à ça. Vous faites quoi? Vous essayez de trouver des compromis et des arbitrages.
On vous sent en tous les cas passionné par vos missions et par votre métier. Ça fait plaisir à voir. Votre raison d'être, pour terminer.
Notre raison d'être. Le mieux de notre raison d'être, c'est que je vous la lise. Parce que je vous la dise. En fait, nous, notre raison d'être, c'est d'imaginer, de construire un cadre de vie humain, sobre et durable. Et c'est là, en assemblant, j'allais dire, les contributions de différents acteurs, nécessaire à la transformation des villes et des territoires, pas que des villes, des territoires également. Et cela, on le fait avec tous et pour tous. Alors, derrière tous ces mots, ce qui est intéressant dans une raison d'être, c'est le parcours qui vous amène à choisir une raison d'être. C'est-à-dire, c'est un travail qu'on a fait avec nos collaborateurs, réunis, on leur a demandé de travailler sur le sens qu'avait un aménageur comme nous. On a fait aussi ce travail avec des administrateurs, dans un séminaire, qui les a amenés à réfléchir aussi sur pourquoi ils voulaient être actionnaire d'une SEM francilienne. Et puis, on a réconcilié les deux autour de cette affectio societatis et on a incrusté dans nos statuts cette raison d'être. Donc, ça nous oblige. Pourquoi une raison d'être? Parce que ça oblige. Aujourd'hui, moi, en tant que mandataire social, j'ai le mandat de mes administrateurs pour faire ce qui est écrit dans notre raison d'être. C'est-à-dire ne pas courir qu'après des résultats, mais d'imaginer, de construire un cadre de vie. Et donc, ça impose des choses. Ça veut dire que pour nous, on doit faire des logements sociaux, on doit faire des logements intermédiaires, on doit diversifier. Parce qu'on a dit qu'on le faisait pour tous. Et avec tous, ça veut dire qu'on doit aussi faire la part ouverte à des partenaires pour construire la ville.
Merci beaucoup. C'était Maurice Issoko au micro de Radio.imo et Radio Territoria. On se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles interviews.
Merci à vous.
Le Congrès des entreprises publiques locales 2021. Innover, investir, réinventer avec les EPL. Les 13 et 14 octobre 2021 sur Radio Immo et Radio Territoria.